J'aimerais parler sur le malheur atteint souvent le juste. Dans Psaume 34, verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Le malheur atteint souvent le juste. Alors, nous l'avons expérimenté, la plupart d'entre nous, nous avons rencontré des malheurs, des difficultés, même depuis que nous sommes chrétiens, donc c'est ça le juste, c'est celui qui est enfant de Dieu. Nous avons accepté Christ, mais nous avons connu des obstacles, des incompréhensions, des difficultés qui sont survenues. Et certaines fois, même les malheurs s'ajoutent à d'autres malheurs, si bien que ça s'empile et c'est un lourd fardeau. Et c'est pourquoi il nous faut apprendre à nous décharger sur le Seigneur de tous nos soucis, de tous nos fardeaux, parce que c'est lui qui viendra nous soutenir dans l'épreuve. Dieu répond à cette question. Qui nous délivrera de l'épreuve? Il dit c'est l'Éternel. Il dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel, c'est-à-dire l'Éternel Dieu, l'en délivre toujours. Donc nous avons déjà cette assurance que Dieu veille sur chacune de nos vies. Le verset ne dit pas comment il va faire et il ne dit pas quand il va le faire, mais il nous donne l'assurance que Dieu va le faire. Et ça, ça doit être dans notre cœur, ça doit être notre espérance et notre foi. Le premier point, c'est une question, qui peut être atteint par le malheur? La parole de Dieu répond directement, le juste. Le juste peut être atteint par le malheur, il est atteint par le malheur, c'est-à-dire le croyant. Et cette adversité que nous traversons, nous la connaissons, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments d'adversité. Ça ne veut pas dire qu'on est un mauvais chrétien parce qu'on est dans l'adversité. Ça ne veut pas dire qu'on est dans l'adversité parce qu'on a péché, mais il y a toutes sortes de situations qui surviennent dans notre vie, qui font partie tout simplement de l'existence. Et Jésus nous a prévenus en nous disant, dans Jean 16, 33, « Vous aurez des tribulations ou des difficultés ou des épreuves dans le monde. » Mais si ça s'arrêtait là, peut-être on pourrait repartir un peu triste en disant, voilà, Jésus nous dit on aura beaucoup de difficultés, mais il dit, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous devons être en Christ, sachant qu'il a vaincu pour nous, et lui faire confiance. Personne n'aime les tribulations, mais Jésus ne tourne pas autour du pot, il dit, vous en aurez. On ne les aime pas, mais elles nous arrivent quand même. Maintenant, la question, c'est comment allons-nous réagir quand les tribulations nous tombent dessus, quand nous passons par l'abandon, quand nous passons par le rejet, quand nous passons par l'incompréhension, par la trahison. C'est là où il nous faut nous rappeler ces promesses. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et ne pas dire à Dieu, tu m'as abandonné, j'ai ces tribulations, tu ne veilles pas sur moi, tu ne prends pas soin de moi, tu ne t'intéresses pas à moi. Ça, c'est une attitude qui ne considère pas Dieu dans sa puissance. Alors, est-ce que nous allons croire comme ce texte le dit? Oui, je suis atteint par le malheur, mais je sais que l'Éternel a un plan et qu'il m'en délivrera. Ça, c'est la foi. C'est le psalmiste qui nous engage sur ce terrain de faire confiance à Dieu malgré l'adversité. Un deuxième point, c'est pourquoi Dieu permet-il la souffrance du juste? Quelque part, on peut se poser la question, pourquoi le juste? Puisqu'il est juste, ne devrait-il pas être protégé ou gardé de toute épreuve? La réponse, c'est que Dieu n'est pas injuste, donc il n'y a pas d'injustice en Dieu, ce n'est pas quelque chose de mauvais en soi. Dieu est parfait, et s'il permet certaines souffrances, certaines difficultés, c'est qu'il a un plan. Ce n'est pas nécessairement que la personne a péché ou que Dieu va le punir pour ceci ou pour cela. Alors ça peut arriver aussi parce que bien, il y a des sanctions des fois de Dieu, oui, mais ce n'est pas toujours le cas. On le voit très bien dans le livre de Job. Dieu a un plan et il n'y a pas de souffrance inutile. Vous voyez, je pense à Jésus. Jésus était parfait, il n'a jamais péché, et pourtant la Bible dit qu'il a souffert. Pierre dit, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 20, « En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter les mauvais traitements pour avoir commis des fautes ? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, et ça, ce n'est pas facile, supporter la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien. Vous avez fait de votre mieux, vous avez bien travaillé, vous avez fait les choses droites, et pourtant, on vous calomnie, on vous rabaisse, on vous traite moins que rien, et vous avez fait ce qui est bien. Et il dit, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, en vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. » Donc on le sait, Jésus a été rejeté, il n'a jamais commis le mal, et pourtant, il a été calomnié, méprisé. Si Jésus a été rejeté, nous serons aussi rejetés, nous souffrirons aussi dans ce monde. Ce n'est pas notre volonté. Même si vous aimez tout le monde, même si vous faites du bien, comme dit ce texte, vous allez faire le bien autour de vous, vous allez aimer, et pourtant, quelquefois, en retour, vous aurez des gens méchants, des gens durs, et des gens qui vous feront beaucoup de mal. Eh bien, le texte dit, c'est une grâce devant Dieu. Donc, le Seigneur peut nous accompagner dans ses souffrances et nous donner sa paix et sa consolation, que Dieu nous accorde sa grâce dans ces moments-là. Dieu permet les épreuves aussi pour notre progrès. 1 Pierre chapitre 4, verset 12. « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. » Alors Pierre prend l'image de la fournaise, c'est-à-dire un feu incandescent, un feu brûlant, et il dit « Ne trouvez pas cela étrange. » Cette fournaise devrait nous détruire, humainement parlant. Nous devrions être brûlés par ce feu, mais ce n'est pas le but du Seigneur, parce que en fait, il permet le feu de cette épreuve pour purifier notre foi, afin que notre foi soit éprouvée par le feu. Et Pierre dit qu'une fois que notre foi est éprouvée par le feu, elle a pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsqu'il paraîtra. Ce n'est pas pour nous détruire, ce n'est pas pour nous abattre, mais c'est pour purifier notre foi afin qu'elle soit fortifiée, afin qu'elle soit renouvelée. Donc dans l'épreuve, frères et sœurs, rappelons-nous que c'est un test de la foi. Exerçons la foi, fortifions-nous dans la foi, ne baissons pas les bras dans la foi, alors que l'épreuve est là, alors que les portes se ferment, alors que tout est négatif, eh bien soyons de ceux qui espèrent encore en Dieu et qui s'appuient sur les promesses en disant « Oui, le malheur atteint souvent le juste, je suis atteint, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Restons sur cette position de foi dans la parole de Dieu, dans le Seigneur. Un troisième point, quel genre de malheur peut nous atteindre ? Puisque le texte dit « le malheur atteint souvent le juste », mais quel genre de malheur ? J'ai regardé d'autres versions, la version Semeur. « Le juste doit passer par beaucoup de souffrances. » Et même le mot original, donc dans le texte hébraïque, dit est traduit par « détresse ». Donc il y a beaucoup de détresse, de calamité, de misère, d'adversité, et deux mots. Voilà. Donc ça résume toute la situation. Job était un homme juste, la Bible dit. C'est comme ça qu'il est présenté dès le début du livre. Il était un homme juste. Et pourtant, il a été durement frappé par l'adversité. Tant ses enfants, que ses troupeaux, que ses biens, que son épouse, qui s'est détournée de lui. Il y a eu vraiment un drame dans cette famille. Cette souffrance est tellement insurmontable que sa femme dit à Job, maudit Dieu et meurt. C'était vraiment le bout du bout. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne l'aimait pas, que Dieu l'avait rejeté. Il était dans le feu de l'épreuve, éprouvé dans sa fidélité. Il a eu cette parole de foi, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Il n'imputa rien d'injuste à Dieu. Il s'est tenu donc dans une foi surnaturel en disant bah, Dieu est au contrôle, il a pris, il avait donné, il a repris, c'est Dieu qui dirige. Mais que le nom de l'Éternel soit béni, ça c'est une parole de louange et de foi dans un contexte, on va dire, défavorable, où il aurait pu se plaindre, gémir, s'éloigner de Dieu, tout lâcher. Ben, il a préféré se maintenir dans la parole. Voilà un exemple d'un homme de foi. On a David, qui a bien sûr connu des grandes détresses avec son beau-père qui voulait le tuer. Il a dû fuir, se cacher. Dans sa propre famille, il a connu la rébellion, il a connu la trahison de son chef des armées, Joab. Il a connu épreuve sur épreuve, souffrance sur souffrance. Et pourtant, il est capable, avec ce psaume, c'est un psaume de David, en considérant sa vie, ben, l'Éternel est là, le malheur m'a atteint, le malheur m'a souvent atteint, il pourrait dire David, mais l'Éternel m'en a toujours délivré. Il vit, en fait, il exprime ce qu'il a vécu au travers de ses épreuves, au travers de ses souffrances. On peut regarder dans le Nouveau Testament, on voit combien le malheur a frappé Paul, qui a été pourtant un puissant instrument de Dieu, mais combien il a été malmené, maltraité. Il a fait naufrage, 40 fois il a reçu les coups, il a reçu plutôt les 40 coups moins 1, plusieurs fois. Il a reçu 40 coups moins 1 parce qu'au 40e coup, on estimait que la personne allait mourir. Il y a eu un complot des Juifs pour le faire mourir. Il avait sans cesse des combats, des attaques, des difficultés, battu plusieurs fois en prison. Et pourtant, il reste dans la ferme conviction que Dieu dirige toutes choses, que Dieu est au contrôle de sa vie et que Dieu ne permettra pas qu'il soit tenté au-delà de ses forces, mais que Dieu a préparé. En même temps que l'épreuve, il y a la solution qui viendra. Il reste ferme dans sa conviction. Et puis, bien sûr, Jésus, je l'ai cité tout à l'heure, Jésus parfait en toutes choses. Regardez Hébreux chapitre 5, verset 7. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a appris l'obéissance, mais il a souffert. Donc, il n'avait pas besoin pour lui-même, il l'a fait pour nous laisser un exemple. Parfois, l'obéissance va nous coûter cher, va nous coûter peut-être un avantage, va nous coûter une place, un intérêt. Eh bien, nous allons perdre, mais nous savons qu'en perdant, en fait, nous gagnons parce que nous suivons la parole de Dieu. Il n'y a pas mieux que de suivre la parole de Dieu. Et Jésus nous a montré l'exemple. Quatrième point, à quel niveau pouvons-nous être atteints? Puisque le texte dit « le malheur atteint ». Souvent le juste. À quel niveau pouvons-nous être atteints? On peut être atteint physiquement, c'est-à-dire on peut connaître la maladie, la souffrance dans notre corps. C'est vrai que la Bible, elle est pleine de bons conseils, quand vous la lisez, pour la santé, parce qu'elle donne des conseils équilibrés pour une alimentation équilibrée, une vie équilibrée. On peut manger de tout ce qui se vend sur le marché, mais vous voyez, il ne faut pas faire d'excès de table non plus, il y a toutes sortes de principes. Et en suivant les conseils bibliques, donc on a déjà des indices pour garder une bonne santé. Mais néanmoins, on est tous humains, qui que nous soyons, et on peut être touché par des maladies. Il y a d'ailleurs l'exemple de Trophime, qui était un des collaborateurs de Paul, et qui a été laissé malade à Milet. Pourtant, c'était un croyant. Un croyant peut aussi tomber malade. Donc la maladie, ça fait partie de la vie terrestre. Et merci Seigneur pour... Les médecins, les aides, Luc était médecin lui-même. Dieu a donné l'intelligence aux hommes pour soigner les autres. Mais en même temps, nous savons que nous pouvons être atteints dans notre corps. Et si nous sommes malades, nous avons recours à la prière, à Dieu qui est le divin médecin et qui est capable, lui, de poser sa main bénie pour nous restaurer. Mais il n'y a pas que la souffrance physique. Le malheur atteint souvent le juste. Eh bien, on peut être touché dans notre corps. Une maladie vient nous frapper, mais ça peut être aussi moralement, psychologiquement, une souffrance morale ou un profond découragement. Et voilà que notre âme est atteinte par le malheur. Notre âme, elle est un peu mystérieuse. Elle connaît des hauts et des bas. Elle est très émotive. Elle est très, on peut être dans la joie débordante, mais on peut être dans la déprime la plus profonde. C'est intéressant parce qu'on le voit très bien avec Élie. Élie, qui pouvait être dans une grande joie, une ferveur intense, lorsqu'il a prié pour que le feu descende du ciel et que l'œuvre de Dieu s'est faite, et là il a pris une victoire, tous les faux prophètes ont été supprimés, il y a eu une grande œuvre de Dieu qui s'est faite, alors il était vraiment au sommet de la victoire, il était plein de joie. Et puis, tout de suite après, quand il apprend que les paroles de Jézabel ont dit « Tu vas voir si je ne vais pas faire de ta vie ce que tu as fait à tous, à tous mes prophètes. » Et donc là, il a complètement plongé. Son âme était découragée au point qu'il demandait à Dieu la mort. Son âme pouvait être dans les sommets, elle a pu aussi rapidement tomber dans le découragement, et c'est un petit peu notre cas. Quand on a des bonnes nouvelles et des bonnes choses qui nous arrivent, on peut être dans un état de ferveur et de joie. Et puis, des éléments surviennent, nous déplaisent, on peut être complètement découragé, nous aussi, abattu, au point de demander à Dieu, « Reprends-moi, Seigneur, on n'en peut plus. » Alors, c'est vrai que on parlait des médecins tout à l'heure pour le corps, il y a des médecins pour l'âme, qui s'appellent les psychiatres ou les psychologues, qui tentent d'apporter un soulagement. Mais nous savons que c'est limité et nous avons recours à Dieu. Le malheur atteint souvent le juste, même dans son âme, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et nous allons prier le Seigneur qui restaure l'âme et qui relève, qui rebâtit ce qui a été détruit ou altéré à l'intérieur. Cinquième élément, la fréquence des malheurs. Quelle est la fréquence des malheurs? Parce que le texte dit... Le malheur atteint souvent le juste, souvent. Et ce petit mot, finalement, il nous dérange un peu. On aurait mieux aimé rarement. Le malheur atteint rarement le juste. Je ne sais pas quel vous préférez. Moi, je préfère rarement. Mais la parole de Dieu, elle dit souvent. Le malheur atteint rarement le juste. Ça sonne mieux. Mais le texte, il dit souvent. Quelque part, ça nous gêne un petit peu, ce souvent, parce qu'on pourrait dire encore si c'était rare, si ça arrivait vraiment très rarement, peut-être deux ou trois fois dans une vie entière, très rare, ça nous satisferait bien. Mais c'est souvent. Et donc le seul lieu où il n'y aura plus de malheur, c'est quand on sera au ciel, dans la présence de Dieu. Tant qu'on est sur terre, bon, on est content d'être sur terre aussi, tant qu'on est là, mais ce qui nous attend, c'est le ciel. Et au ciel, il n'y aura plus de malheur. On sait que tant qu'on est sur terre, on ne sait pas combien d'années, peut-être encore 20, 30, 40, 50 ans, pour les plus vaillants qui ont jusqu'à 100 ans, il y a plus en plus de centenaires, voilà, mais c'est quand même les malheurs sur terre. On ne peut pas changer les circonstances, les difficultés qui nous arrivent, mais on peut les traverser en nous confiant dans le Seigneur, que Dieu nous aide. Parce que la Bible dit que ça reviendra souvent. Donc autant s'y préparer psychologiquement, spirituellement, en se disant, il va y en avoir beaucoup. Il va y en avoir plusieurs, parce que souvent, ça veut dire beaucoup. Ainsi, si on est préparé mentalement, si psychologiquement, spirituellement, on se prépare, alors à chaque fois qu'un malheur arrive, on ne sera pas surpris en disant, Dieu m'a abandonné, un nouveau malheur arrive... c'est encore Dieu qui me punit, vous voyez, on serait tout le temps en train de se plaindre. Mais comme on sait que le malheur atteint souvent le juste, alors on est préparé et on est prêt à toute éventualité. Maintenant, un sixième point. Combien de fois Dieu peut-il nous délivrer? Alors moi, je remarque qu'il y a le mot « souvent ». J'ai souligné le mot « souvent » au verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais regardez le verset suivant. Mais l'Éternel l'en délivre, il ne dit pas souvent, il dit toujours. Ça, c'est encore mieux, parce que à 100%, l'Éternel l'en délivre toujours. Ah, parce que si le texte disait l'Éternel l'en délivre souvent, on pourrait se dire il y a des fois où ça va mal se passer alors. Mais là, c'est toujours. Donc, quel que soit le nombre de malheurs, 100% des cas, l'Éternel, la promesse est grandiose. Mais voyez, Dieu dans la parole, il ne fait pas des petites promesses, il fait des grandes promesses. Mais ces promesses, nous allons les vivre à la hauteur de notre foi. Si notre foi, elle est petite, elle est elle n'est pas fondée, elle est faible, eh bien nous attendrons à des petites choses de la part de Dieu. Mais si nous lisons la Bible et que nous les saisissons par la foi, eh bien on peut s'attendre à de grandes choses de la part de Dieu, et Dieu répond à la hauteur de notre foi. La promesse de Dieu est énorme. Quand vous lisez les promesses de Dieu, c'est énorme. Quand Dieu parle, il dit à ses disciples, ils sont une poignée. Ils sont peut-être une douzaine. Il y avait même plus Judas, ils étaient 11. Et il dit à ses disciples, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Ils étaient une poignée. La promesse de Dieu, elle est tellement grandiose, elle est tellement énorme que, voilà, il faut la foi pour l'accomplir. Parce qu'ils pouvaient se regarder les 11 disciples qui restaient en se disant, on n'est que 11, allez par tout le monde. Comment on va accomplir une chose pareille? Vous voyez, c'était presque irréaliste. Les promesses de Dieu, elles sont humainement irréalistes. C'est pourquoi il faut les vivre dans la foi. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Vous voyez, c'est des promesses mondiales. Dieu seul peut faire de telles promesses. Psaume 33, verset 8. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Voilà notre Dieu, il est puissant pour accomplir ce qu'il dit. Quand il parle, il est puissant pour mettre en œuvre ce qu'il a dit qu'il allait faire. Ses promesses sont certaines. Certains pensent que c'est peut-être vrai pour les autres, mais moi, je ne crois pas que c'est vrai pour ma vie. Je n'arrive pas à le croire. Je veux bien croire pour les autres, mais pas pour moi. Mais si vous ne croyez pas que Dieu va le faire pour vous, mais vous ne le verrez pas s'accomplir. Parce que la promesse est pour ceux qui croient. Ceux qui croient voient la gloire de Dieu. Ceux qui ne croient pas, bien, ils passent à côté des grâces et des bénédictions. Un septième point, qu'est-ce que la délivrance? Car le texte dit, le malheur atteint souvent le juste, oui, mais l'Éternel l'en délivre. Délivre, toujours. Qu'est-ce que c'est que cette délivrance? Car la notion de délivrance n'est pas toujours la même pour Dieu et pour nous. Mais Dieu nous délivre, mais comment il va nous délivrer? L'important, c'est de savoir qu'il va nous délivrer. Maintenant, on ne peut pas savoir comment il va nous délivrer et quand il va nous délivrer. Ça, c'est la part de Dieu. Et on ne peut pas imposer à Dieu d'agir tel jour ou de telle manière ou à telle heure ou avant tel moment. On le voit avec Marthe et Marie, quand Lazare est mort. Seigneur, si tu avais été là, hein, ça veut dire que tu es arrivé trop tard, mon frère ne serait pas mort. Tu es arrivé trop tard. Mais on ne peut pas demander à Dieu d'agir avant tel. On ne peut pas donner un ultimatum. Et Jésus dit non, il savait qu'il était venu non pas pour une guérison, mais pour une résurrection. Donc Jésus n'est pas en retard. Les trois Hébreux qui ont refusé de se prosterner devant cette immense statue que Nebuchadnezzar avait dressée, une statue de 30 mètres de haut, tous ceux qui refusaient de se prosterner étaient jetés dans la fournaise ardente. Daniel chapitre 3 verset 17, voilà la parole qu'ils répondent au roi, qui leur laisse une dernière chance en disant « Prosternez-vous devant la statue, c'est votre dernière chance. » Et voici ce qu'ils répondent. « Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. » Il nous délivrera de ta main. Mais ils ne savent pas comment Dieu va les délivrer de la main du roi. « Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. » Ils avaient simplement dans leur cœur la certitude que Dieu allait les délivrer, comme ce verset dit, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Ils avaient cette foi, cette confiance, oui, « Il nous délivrera de ta main. » Ils ignoraient la manière dont Dieu s'allait prendre, quand est-ce qu'il allait le faire, comment il allait le faire. Et ça, c'est la partie qui revient à Dieu. Et ils étaient bien face à la fournaise, mais ils ont été jetés dans la fournaise. Quelque part, ils auraient pu espérer que Dieu intervienne avant qu'ils soient jetés dans la fournaise, qu'il y ait des anges qui viennent peut-être les protéger avant qu'ils n'aillent dans la fournaise. Mais non, ils ont été jetés dans la fournaise. Toutefois, ils ont été protégés dans la fournaise et le feu n'a pas brûlé leurs vêtements ni leur personne est restée intacte. C'est un miracle. Dieu les a gardés dans cette épreuve. Mais ils étaient quand même prêts à tout, quoi. Ils ne savaient pas comment Dieu allait faire, mais en tout cas, ils ont tenu tête au roi et Dieu les a délivrés de la mort. Ils auraient pu aussi connaître la mort, qui aurait été une forme de délivrance de cette vie terrestre pour aller directement dans la présence de Dieu. Et les premiers chrétiens étaient ils étaient prêts à mourir, en fait. Ils étaient prêts à mourir parce qu'à l'époque, être chrétien, ça voulait dire risquer sa vie, parce que si vous étiez chrétien, ils étaient persécutés, ils étaient rejetés, ils étaient lapidés, ils étaient même persécutés par les Romains, on les mettait dans les cirques. Donc être chrétien à l'époque, c'était presque accepter aussi le sacrifice. Et Paul le dit dans Philippiens chapitre 1, verset 21, il dit « Mais Christ est ma vie ». Et la mort m'est un gain. Ils étaient donc dans une dimension de la mort, que la mort, ce n'était pas quelque chose à fuir nécessairement, mais c'était même un gain parce qu'on va se retrouver dans la présence de Dieu. Philippiens 23, « Je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. » C'est ça la mort pour lui. Ça veut dire, c'est une délivrance. C'est la délivrance de cette enveloppe terrestre, c'est la délivrance de ce corps de mort. C'est de beaucoup le meilleur. Voilà comment il voit la mort, c'est vraiment le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair, je vais rester encore dans cette vie pour vous enseigner, pour vous apporter les conseils de Dieu, mais pour lui, en fait, la mort est partir auprès de Christ, il sait qu'il sera dans le paradis. Bien, c'était pareil pour les trois Hébreux, ils étaient prêts à tout, et la délivrance aurait pu être qu'il soit repris auprès de Dieu, par la mort. Dans un certain cas, même la mort est une délivrance. On le voit quand on accompagne des personnes en fin de vie avec un corps usé, qui sont infirmes, qui sont malades, qui sont souffrants. Eh bien, ils aspirent, en fait. Ils aspirent à partir, à quitter cette terre pour un monde meilleur. Ils ont achevé leur course et ils sont prêts à entrer dans la gloire. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une espérance que la vie terrestre n'est pas la fin de tout, mais qu'il y a un réel repos, il y a une réelle délivrance à aller auprès du Seigneur. Le malheur atteint souvent le juste, c'est ce que nous vivons, mais rappelons-nous la belle promesse de Dieu, c'est que l'Éternel l'en délivre toujours. Alors on est tous touchés par le malheur d'une manière ou d'une autre, on peut le déplorer, on peut dire ce n'est pas juste, je ne le mérite pas, on peut se plaindre, on peut se révolter, ça ne changera pas la réalité. En plus, il y a le mot « souvent », donc il nous faut apprendre à vivre avec, j'allais dire, à souffrir, en fait, pour Christ. Mais nous devons croire que si le malheur est souvent là, la délivrance est toujours là, c'est celle de l'Éternel. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, je vous laisse ce dernier verset. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle » ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Il nous délivre toujours, que son nom soit béni. Amen. Merci encore pour ta parole, elle est toujours puissante, elle est toujours efficace pour consoler nos cœurs, pour nous permettre de nous approcher de toi avec confiance. Oui, c'est vrai que dans ce monde, nous réalisons que nous aurons beaucoup de malheurs, nous en avons de toutes sortes de difficultés, de tribulations nous environnent. Mais nous voulons proclamer encore tes promesses, que tu es l'Éternel qui nous délivre toujours, quelles que soient les souffrances, les difficultés, tu étends encore ta main. Et Seigneur, nous voulons encore tourner nos yeux vers toi et croire que tu es puissant pour libérer, pour accorder la paix du cœur, pour accorder le repos de l'âme, pour accorder la joie, la paix dans la tourmente, la joie quand il y a des éléments sombres autour de nous. Oui, ce soir, nous voulons te louer de ce que tu règnes en gloire, de ce que tu contrôles toutes choses et de ce que tu ne permettras pas que nous soyons même tentés au-delà de nos forces, parce que tu as déjà préparé des solutions, tu as déjà préparé, Seigneur, des bénédictions en réserve. Et nous voulons te rendre grâce car tout ce que tu fais est parfait et nous voulons te bénir dans le nom de Jésus. Amen.